Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Cette semaine, les Good Guns sont revenus à leur port d'attache après deux semaines passées au cœur du festival Peinture Fraîche qui bat son plein jusqu'au 25 octobre, je vous le rappelle, à la Halle de Bourg. La comédie Odéon nous fait le plaisir de nous recevoir et vous invite à venir, vous aussi, découvrir leur programmation. Au sommaire, cette semaine, le comédien Philippe Cobert nous parle d'Alphonse Daudet et nous fait entendre des extraits des savoureuses lettres de Mon Moulin. Guillaume nous fera découvrir Seb, qui jouera en live pour nous, avec plaisir. Gaël chroniquera les expositions du Musée d'Art Contemporain et nous terminerons avec nos Gédéons. On se retrouve sur le plateau avec Philippe Cobert à l'affiche de la comédie Odéon jusqu'au 1er novembre avec des extraits des lettres de Mon Moulin d'Alphonse Daudet. Bonjour Philippe Cobert.
Vous savez Philippe Cobert, pour moi, vous êtes tout simplement Molière. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bah, vous n'êtes pas la seule. je parle pas. J'ai été Molière pour beaucoup, beaucoup de gens, évidemment, mais je le suis surtout pour moi. C'est-à-dire que c'est évidemment à 26 ans, quand vous tombe une chose comme ça sur la tête, ça vous marque pour le restant de ses jours. Surtout que ce n'était pas un Molière à la noix. Hein. C'était vraiment sans doute le plus beau film qui a jamais été réalisé sur. J'ai toute ma vie, en tout cas, essayé de rester à la hauteur digne du cadeau que Ariane Mnouchkine m'a fait à l'époque.
C'était donc un film signé Ariane Mnouchkine de 1977, auquel je faisais évidemment référence. Vous êtes comédien, mais aussi surtout un auteur et un homme de théâtre, j'ai envie de dire, de tous les théâtres, et plus spécifiquement un écrivain qui écrit sa vie et qui la joue et qui la monte au théâtre. C'est tout ça en même temps, Philippe Cobert. On ne peut pas vous résumer simplement en disant que vous êtes un comédien.
Écoutez, vous me faites très plaisir parce que je l'entends peu souvent dans la bouche des journalistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon projet, dès l'origine et à l'origine, a été un projet littéraire. J'ai improvisé et joué le roman que j'aurais préféré écrire, en fait, à l'époque. Je me suis mis à improviser, ça a été ma façon d'écrire. Mais bien sûr, c'est un projet d'écriture, tout à fait. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que quand les spectacles sont terminés, je les rédige, je les finis, je les édite. Ils sont édités chez Joël Losfeld. J'encourage beaucoup les gens à les lire parce que c'est tout mon travail et qu'on s'amuse autant en les lisant et qu'on visualise autant en les lisant qu'en les voyant. J'ai eu la chance que l'Académie française l'ait reconnu, donc ça c'était un grand jour. Alors par contre, là où je me permettrai de discuter un peu ce que vous dites, c'est quand vous dites que vous n'êtes pas seulement un comédien, vous êtes aussi un auteur. Alors c'est tout à mon honneur.
Et un metteur en scène.
Oui, bien sûr, je suis un metteur en scène. Je peux vous dire que mettre en scène mes pièces, c'est très très compliqué. Ça se voit pas, ça se voit pas. C'est ça qui fait, c'est l'art. C'est un art que j'ai beaucoup observé chez Peter Brook ou chez Stuart Side ou chez des metteurs en scène dont le talent est justement de pas montrer qu'ils le sont. Mais en tout cas, il n'empêche que dans ma vie, en tout cas, dans ma vie, je peux dire ce que je place au-dessus de tout, c'est comédien. Voilà, je suis d'abord un comédien, avant tout un comédien, et au bout du compte un comédien. Sur ma carte d'identité, il y a métier comédien. Alors quand je fais des trucs de théâtre, etc., je me mets en auteur, metteur en scène et comédien, ou quand je signe des pétitions. Mais ma vraie nature, en effet, comme Molière, comme Chaplin, comme et puis beaucoup d'autres, comme Eduardo de Filippo, comme Valetti, comme d'autres aussi, d'autres genres. Je pense à Olivier Py. Je suis un comédien, mais un comédien qui écrit et qui met en scène.
Je suis doublement contente de vous recevoir ici sur ce plateau parce qu'il y a très longtemps que vous n'étiez pas venu à Lyon, me semble-t-il.
J'ai calculé autre chose que j'ai un ami qui est lyonnais, qui est un peu un fan, et je ne me rappelais plus sur le plateau. J'ai dit, ça fait combien de temps que je ne suis pas venu, Jean-Pierre? Il m'a dit 17 ans. Ça fait en effet 17 ans, la dernière fois que j'étais venu, j'étais invité par Claudia Stavisky aux Subsistances pour jouer Recouvre-le de lumière, je crois, la pièce sur le livre d'Alain Moncouquiole sur son frère Nimenio II. Mais depuis, silence radio, en effet, le théâtre que je fais n'était pas considéré par ceux qui dirigent le théâtre, les Célestins ou d'autres théâtres. Si j'ai eu droit, j'ai eu la chance de Philippe Faure, m'avait vraiment ouvert son plateau pour une série de représentations. Hélas, il n'est plus là, à la Croix-Rousse. Je pense que ça a l'air ringard de dire ça, mais le théâtre comique, le vrai théâtre comique, hein, je ne parle pas de comique au second degré ou du comique par allusion, parce qu'après tout, il y a des pièces aussi qui peuvent faire sourire. Non, le vrai, l'entreprise burlesque, comique, n'est pas considérée par les gens de théâtre comme un art noble. Or, pour moi, c'est la grandeur de l'art, c'est la noblesse de l'art, c'est la langue de Molière. Et, enfin, pas, je ne vais pas agiter Molière comme une marotte, mais je veux dire, c'est toujours, on dit, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Enfin, non, c'est très difficile de faire pleurer. Donc, c'est aussi difficile de faire pleurer que de faire rire.
Si vous êtes dans un théâtre privé, vous êtes à la Comédie Odéon et vous pouvez défendre un texte qui vous tient à cœur, celui d'Alphonse Daudet et les fameuses lettres de mon moulin ou de son moulin, on va dire ça comme ça. Je vous ai vu dans le premier volet, vous avez deux volets assez différents. Vous allez nous dire comment vous avez... Choisis ces textes d'abord, parce que vous avez fait un choix de texte, et comment vous avez décidé de les mettre en scène, de les monter. Et je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de lecture et vous y tenez beaucoup.
J'y tiens beaucoup parce que quand on travaille 6 mois, 6 heures par jour à peu près, pour rentrer le texte dans sa tête, dans son corps, etc., vraiment le mot de lecture est presque une injure. Et puis parce qu'en plus, j'avoue, je reconnais, même si d'ailleurs j'ai beaucoup sacrifié à l'exercice, j'ai fait tous mes spectacles qui n'étaient pas de moi, ont commencé par des lectures, Suarez, Aragon, etc. Mais il y a une certaine vogue, une certaine mode de la lecture dans le théâtre d'aujourd'hui à laquelle j'adhère pas non plus beaucoup. Alors encore une fois, sauf exception, sauf quand c'est Lucchini qui lit Jouvet, où j'ai un souvenir extraordinaire. Céline, je ne l'ai pas vue, mais enfin j'ai entendu l'enregistrement. Enfin bon, voilà, il y a toujours les exceptions, ou Alain Cuny qui lit Claudel. Bon là, c'est pour ça, je vous dis, les lois au théâtre, elles sont relatives.
Pourquoi Daudet ?
Daudet, parce que pas Guyotta, parce que pas Lars Noréen, parce que pas...
parce que pas beaucoup joué au théâtre, finalement. Voilà, on l'entend pas beaucoup, cet Alphonse Daudet.
La vérité, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais une vieille pléiade d'Alphonse Daudet, et que je me suis dit, tiens, c'est marrant, je ne me rappelle plus de ce truc, je vais le relire, puis les lettres de mon moulin, tout ça. J'avais un souvenir d'enfance, mais un peu genre bibliothèque verte, genre...
La chèvre de Monsieur Seguin.
Voilà, littérature pour les enfants. Et j'étais totalement bluffé, stupéfait, me dire, mais c'est un immense écrivain. D'abord, c'est tragique, toutes les histoires sont profondément tragiques, elles sont d'une profondeur incroyable, elles sont fantastiques, c'est-à-dire elles sont du domaine, c'est comme des contes fantastiques, elles sont comme Théophile Gautier, et c'est vraiment l'art de l'écriture du 19e siècle, de Zola, de Balzac, de Flaubert, enfin il est à cette hauteur-là, avec en plus cette extraordinaire évocation de la Provence, qui est mon pays natal, qui compte énormément pour moi dans tous mes spectacles, parce que je joue mes copains, je joue Max, je joue Bruno, donc tous les accents, les bourgeois, les gens du peuple, les paysans, les Marseillais, les petits gamins, les ouvriers des cités, tout ça, j'ai expérimenté ça pendant des années. Et d'un seul coup, cette imagerie de la Provence, cette nature de la Provence, y compris l'évocation de Frédéric Mistral, qu'en fait je ne connaissais pas, que je découvre depuis, qui est un prodigieux poète. Mais par exemple, vous voyez, Mistral, pour moi, Mistral, depuis des années, oui, c'est un maurassien, c'est l'extrême droite, c'est les faits libres, les machins, l'antisémite et tout ça. Et évidemment que c'est vrai, mais c'est tellement autre chose que ça. Et je dirais que Daudet, quand j'ai monté André Suarez, mon ambition était de faire découvrir un auteur inconnu. Plus personne connaît André Suarez, qui est un des plus grands écrivains français, non seulement du XXe siècle, mais de l'histoire de la littérature. Là, c'est autre chose, il est trop connu. C'est-à-dire la célébrité d'Alphonse Daudet a enfoui la vraie connaissance qu'on doit en avoir. Et je croyais d'ailleurs faire un spectacle pour les enfants. D'ailleurs, j'ai dédié ce spectacle à ma fille, à Théodora. J'ai fait un spectacle pour les vieux, plutôt. Parce qu'en fait, c'est les vieux, c'est-à-dire moi, les gens de ma génération, génération et des celles qui viennent après, qui se rappellent de ce qu'ils ont lu et qui emmènent leurs enfants. D'ailleurs, les adolescents adorent ça, les enfants, etc.
Alors, ce spectacle est né dans le confinement. Ce qui est magnifique, c'est que quand on vient vous voir, eh bien, on voyage au son des cigales, au son de votre accent qui est absolument magnifique. Moi, j'invite tous nos auditeurs à venir vous voir jusqu'au 2 novembre prochain en alternance. Hein, les jours pairs, vous jouez le premier volet, et les jours impairs, le deuxième volet. Comment vous avez fait la répartition entre cette première partie et cette deuxième partie ?
Alors, les deux parties, il n'y a pas de mystère. C'est simplement que je ne voulais pas avoir une lettre que je regrette trop. Je ne peux pas toutes les dire, il y en a 24, mais j'en dis 13 ou 14. Donc, je ne voulais pas qu'il y en ait... Je voulais absolument jouer les trois messes basses, le curé du... et la mule du pape, enfin, etc., etc. Et pour que ça ne soit pas interminable, d'abord, j'ai plus 50 ans. Donc, à 50 ans, je faisais encore des spectacles de 3h30, mais maintenant, c'est fini. Et pour le public, surtout, je voulais que... Donc, chaque spectacle dure 1h30. Et donc, il fallait qu'il y en ait deux pour que je puisse ne pas avoir de regrets. Le début, c'est pas compliqué, c'est le début du livre. Vraiment, je vais jusqu'à la chef de M. Seguin, je suis la chronologie du livre. Et à partir de là, vous savez, mes spectacles sont très composés, mais je travaille pas comme un intellectuel, je travaille comme un sculpteur, ou comme un musicien, ou comme un peintre. C'est-à-dire, il y a des endroits, c'est noir, vert, rouge, c'est dur, c'est mou, c'est friable, c'est fluide, je fais des compositions, il y a des histoires tristes, puis d'un seul coup des histoires gaies, puis d'un seul coup. Donc je compose vraiment les spectacles, que ce soit les... D'ailleurs, tout le travail que j'ai fait sur mes propres spectacles m'a été très utile quand je travaille sur les textes des autres, parce que c'est comme ça que je fais les choix, plus en fonction de... Après, il y a, je sais pas, L'homme à la cervelle d'or, par exemple, dans la première partie, est une histoire qui m'a poursuivi toute ma vie, parce que tout simplement, je me suis identifié à cette histoire, parce que j'ai tout mon roman personnel, je l'ai improvisé en 3 ans, et pendant 40 ans, je n'ai fait qu'exploiter les improvisations de ces 4 ans, et je me suis dit, un jour, il n'y aura plus rien. Comme l'homme à la cervelle d'or, c'est-à-dire l'or, il ne restera plus quelques bribes aux parois du crâne et je partirai dans les rues, l'air hébété, les garer les mains en avant. Alors pour ne pas partir dans les rues, l'air hébété en avant, j'ai monté mes de mon moulin.
Merci beaucoup Philippe Cobert de nous avoir accordé ce petit moment. C'était très agréable de converser avec vous autour de la figure, bien sûr, d'Alphonse Daudet. On invite les auditeurs à venir ici, à la Comédie Odéon, voir Philippe Cobert dans les lettres de mon moulin qu'au 1er novembre, j'ai dit le...
remercier le directeur Julien parce que vraiment il m'a fait un cadeau, mais me permettre de jouer un mois à Lyon, ça c'est vraiment le cadeau quoi. Alors vraiment je veux le remercier.
Merci beaucoup Philippe Cobert.
Hello Guillaume, tu es venu avec Seb, je te laisse nous faire découvrir cette semaine.
Alors oui, on a de la chance d'avoir Seb parce que Seb c'est quelqu'un d'assez insaisissable, je trouve, dans le microcosme lyonnais. Donc moi je t'ai découvert il y a assez longtemps sur un autre projet qui s'appelait Charlie Tango, qui était un projet on va dire de groupe. Mais qui était un peu plus, j'allais dire, un peu plus sérieux, mais je ne sais pas si on peut dire ça. Parce que, en fait, quand on te voit en concert, il y a un petit côté, effectivement, troublion, un petit peu comique, je dirais, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que tu fais finalement sur scène. Tu chantes des chansons, mais il n'y a pas que ça, en fait.
Alors, qu'est-ce que je fais sur scène ? C'est une question très large. Ouais. Et à la fois, tu l'as bien introduite, parce que du coup, j'ai un peu changé mon approche depuis Charlie Tango, quoi. C'est-à-dire que j'étais un peu dans un truc très codé. J'avais un chapeau, je faisais attention à ce que je mettais sur les réseaux sociaux. J'étais dans un truc un peu formaté. Et en gros, j'essayais de coller à une certaine image de ce qu'on attendait de la musique de l'époque à l'époque. Et j'ai décidé depuis ce nouveau projet, Seb, où je pars en solo total, guitare-voix et des textes, de m'affranchir de tous ces codes un peu que j'avais intégrés au fil de mon apprentissage musical. Et donc j'essaie simplement d'exister, voilà, c'est tout, sur scène.
Alors ça, c'est déjà beaucoup d'exister sur scène. Donc tu as fait quand même pas mal de concerts, de premières parties, ouais. Notamment à tout bout de champ. Alors qu'est-ce que t'apporte justement la scène ? C'est des morceaux que t'as depuis très longtemps ou c'est des morceaux qui sont plus récents ?
Pour ce qui est de mon projet Seb, c'est des morceaux très vifs quoi, qui ont été écrits ces 3 dernières années. Ça fait suite à une vraie remise en question, est-ce que je continue la musique ou pas, et en fait au final je me rends compte que c'était un peu la seule chose que j'aimais faire, et la scène c'est tellement jouissif que je peux pas m'en passer du tout. C'est vraiment quelque chose que je...
C'est chouette que tu dises que la scène soit jouissive, parce que quand on est du côté du public, tu amènes un vrai truc. Enfin, je sais pas, il y a une connivence qui fait que on est vraiment avec toi. Et tu racontes trop une histoire. C'est pas que des chansons, voilà, c'est pas qu'un tour de chant entre guillemets. C'est vraiment quelque chose que tu amènes et on a l'impression qu'il y a une forme de proximité. Est-ce que ça, tu le travailles? Enfin, les interchansons, tout ça, les petites histoires que tu racontes, c'est jamais les mêmes en fait, comme certains artistes justement formatés.
Non, je le travaille pas vraiment. Disons que j'ai une, comme je pense tous les artistes, une ligne directrice de un peu de narration, quoi, pour que les gens comprennent bien le cheminement. Vu qu'en plus mon spectacle, il y a un gap assez large entre, il y a des chansons très tristes, très premier degré, et des chansons très vraiment un peu absurdes, quoi, où j'essaie de que le rire soit finalement soit devant et parfois même le fond. Que la forme prenne le pas sur le fond, donc il y a un côté aussi parfois troisième degré, et du coup bah, je peux difficilement ne pas expliquer un petit peu où j'en suis à tel moment du spectacle. Faut une clé de lisibilité, donc j'ai des pistes, mais par contre je me laisse complètement happer parfois par l'émotion du concert, et je m'autorise vraiment à me marrer, à tenter des choses en direct.
Alors justement, tu viens de publier un titre sur Facebook, ouais. Là. Alors là, pour le coup, on ne se marre pas du tout.
Ah non, là,
voilà, il y a un titre donc tu vas nous jouer tout à l'heure qui s'appelle donc Gamin. Et sur ce titre, ce qui est assez étonnant, c'est que tu dis « Je ne dirai jamais je t'aime ». La tendresse, j'ai jamais connu. C'est quand même des mots qui sont très forts. Donc tu peux nous expliquer ça. Est-ce que c'est lié à l'ère du temps? Voilà, on est dans cette société, j'allais dire post-Covid. Non, on est en plein Covid. On n'est plus post-Covid. On est pas encore post-Covid. Donc est-ce que c'est lié à ça, à ton hypocondrie, comme tu disais?
Non, pas spécialement. C'est que je me rends compte que bon, on va pas se mentir. C'est une chanson un peu intime aussi, et c'est une chanson qui colle avec un état un peu l'état général du monde en ce moment. Et c'est vrai que j'étais dans un coup un peu de déprime, et où je me suis dit, en fait, ça n'a pas de sens, quoi. Là, on sort d'un truc. Et c'était pas forcément pour être... Je la trouve pas non plus très dark, en fait. Si on analyse vraiment le texte, il y a un côté, au contraire, très rationnel, quoi. C'est bon, c'est la merde partout. On n'arrive pas à se faire entendre. On n'arrive pas à... c'est évidemment, il y a une couche de tristesse, une couche de un peu de fatalité, de fatalisme, peut-être, plutôt. Mais c'est justement, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Est-ce qu'on avoue être... je sais pas, une forme de direction aussi assez franche par rapport à ça, qui n'est pas non plus si grave, en fait, c'est pas grave.
Enfin, voilà. Ouais, et puis tu parles par exemple de choses qui sont finalement très actuelles, enfin l'addiction aux réseaux sociaux.
C'est un carnage total. Ouais, quoi. Ça déglingue complètement l'état de tout le monde, quoi. On est à la quête des likes, les enfants ils sont tous déprimés, j'ai vu des reportages là. C'est complètement aberrant. Je veux pas faire mon vieux con en plus.
Non, mais c'est vraiment un sujet vraiment intéressant, pesant, parce qu'évidemment on devient vraiment prisonnier de ça, même si on est conscient de ça, parce que le pire c'est que la plupart des gens sont conscients de cette prison, en fait, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Alors moi je connais 2-3 personnes qui ont vraiment décidé vraiment de couper tout ça, et finalement qu'ont plus de liberté de créer finalement.
Je comprends tout à fait cette démarche. Je suis un peu là-dedans, et j'irai même plus loin. J'ai envie de rendre le lien qu'on a entre nous peut-être plus sain, quoi. Ce qui est moins de filtres, qui est moins d'écran. Ça fait très naïf, hein, ce que je dis, mais pareil, je me pose aussi beaucoup de questions sur la vie urbaine. J'ai l'impression qu'on est tous assez proches et à la fois hyper loin l'un de l'autre, en ville notamment. Donc je sais pas, j'ai plein de problématiques en ce moment. Je me dis, est-ce que le sens c'est pas d'aller à la campagne en ce moment, c'est pas... Et le Covid et le fait qu'on ait été enfermé, moi j'étais enfermé à Villeurbanne avec un vis-à-vis évident, avec une absence de soleil aussi évidente. Je me suis dit, merde, en fait, pourquoi, quoi? Enfin, pourquoi je paye 650 euros un loyer alors que je vois pas le ciel, quoi? Et je me suis dit, du coup, ça a pas de sens. Et c'est un peu un méli-mélo d'émotions qui m'a été transmis par cette période-là, dont on n'est pas encore sorti, qui a façonné l'écriture de ce texte, mais assez vite, hein, je l'ai écrit très rapidement, en une demi-heure c'était plié.
On sent que c'est une sorte de working progress, mais vraiment un truc très, très intime, très autobiographique.
Ouais.
Et finalement, alors ce qui est fort dans les textes autobiographiques, c'est que quand on les écoute, eh bien, en tant qu'auditeur, eh bien, on s'y retrouve. C'est ça qui est très étrange, en fait.
Souvent, pour moi, c'est mission accomplie. Hein. J'aime bien découvrir les gens au travers de textes et de chansons. Pour moi, c'est le principe même de quelqu'un qui se dévoile, quoi. Et les artistes que j'aime sont des artistes qui s'impliquent un minimum dans leur création.
Alors justement, transition toute trouvée, les artistes que tu aimes, alors quels sont-ils? On m'a dit que tu aimais particulièrement Daniel Guichard. Alors, peux-tu nous expliquer cette incongruité, quand même?
Non, mais c'était une émission de radio il y a 2 semaines. C'est ça, j'étais sur Loft Sud Radio. J'étais sur... Sud Radio, et il y avait du coup Daniel Guichard qui passait après moi. Il a écouté une de mes chansons, et je le connais pas plus que ça. Pour être honnête, je connais même, je crois même pas une chanson de lui. C'est malheureux, hein, je suis désolé.
Mon vieux, quand même. Mon enfin, vieux. Tu vois, enfin, quand même, des classiques.
Oui, oui, oui. Oh oui, elle est super. Non, je la connais pas. Et du coup, bah, il a dit, il a écouté ma chanson, et il m'a fait une blague. Il a dit, oui, Seb, tu devrais t'appeler autrement parce que ça fait un peu trop cocotte minute. Ah, oui. J'ai fait, oui, merci, Damien, c'est très gentil.
Super van.
Ah, il m'a. Ah, il
on
m'a,
pensait
il...
pas qu'il avait une carrière d'humoriste aussi.
Ah ouais, ah non, mais là on était sur un, ouais, un bashing en règle devant la France entière. C'était
d'accord,
super.
Mais pour revenir un peu à peut-être tes inspirateurs ou inspiratrices d'ailleurs.
Oh, bah, c'est globalement la chanson à texte sensible, quoi. Et de plus en plus, je me mets à écouter alors, du vieux rap, quoi, français.
Voilà. Donc, quand même, on peut quand même parler des concerts à venir. Normalement, tu es prévu au festival Nouvelle Voix,
ouais,
au Théâtre de Villefranche. Alors, on loue quand même le Théâtre de Villefranche et Olivier Bocongiraud qui programme, parce que voilà, il se bat pour que son festival se déroule malgré le Covid. C'est le 18 novembre,
c'est
tu
ça,
as raison,
yes.
Tu as complètement raison, d'accord. Et en plus, tu fais l'ouverture pour un artiste dont on avait déjà parlé ici, qui s'appelle Le Noiseur. Est-ce que tu as déjà écouté
alors,
Le Noiseur?
J'ai écouté, je suis allé regarder, il y a un côté un peu Gainsbourg en classe, quoi. Ouais, ça a l'air bien écrit et bien. Ouais, ouais, ça a l'air fait. Délicat aussi. Quoi,
ouais,
dans l'approche.
Ça va être une belle soirée.
Ouais.
Et donc, je sais plus le lieu. C'est au théâtre de Glaizé, donc c'est plus à Villefranche parce qu'il n'y a pas de concert ou de grand théâtre de Villefranche suite au Covid. Mais le festival continue, donc le festival Nouvelle Voix. On te remercie, puis on
merci
va écouter Gamin, une chanson triste et à la fois joyeuse, donc c'est merveilleux.
Nickel,
merci
beaucoup,
Seb.
Guillaume. J'écris ce titre à cet enfant que je n'aurais pas. On est déjà quelques milliards, t'as rien d'exceptionnel, tu vois. Si t'étais là, tu ferais la même. On sait plus du tout où on va. Tu verras jamais tes parents se prendre la gueule chez Ikea. Tu choperas jamais ton cancer, tu crèveras pas du corona. Tu verras pas Paris misère. À chaque métro, c'est même constat. Tu te shooteras pas pour t'endormir, pas d'anesthésie volontaire. Tu ne rembourseras pas ton crédit qui te pète les trois quarts du salaire. Tu connaîtras pas le manque de sens, la tachycardie dans la rue. Tu seras peinard dans ton néant, personne ne sifflera ton cul. Je te dirai jamais je t'aime. La tendresse j'ai jamais connue. De toute façon je sais pas faire. Désolé pour toi c'est foutu. Je te dirai jamais je t'aime. La tendresse j'ai jamais connue. De toute façon je sais pas faire. Désolé pour toi c'est foutu. Tu te diras pas qu'il est trop tard pour foutre en tôle les Balkany. Pour voir des étoiles dans le noir et du soleil sans vis-à-vis. Tu trinqueras pas à ton diplôme qui te servira à rien. Quand toi tu rêveras d'autre chose d'une simple bise à tes copains. On est entouré de paradoxes. Vrais faux amis, vrais faux semblants. Qui vendraient leur race pour un poste. Bien haut le poing derrière l'écran. Tu te verras jamais violé. Par ton copain, par ton patron. Par ton petit tuteur au caté. Ou ton producteur à la con. Et tu tomberas pas amoureux de ce salopard qui t'a plu. Qui te la met sans préliminaire et qui surprise te fait cocu. T'auras pas à te protéger, la guerre tu ne la feras pas. 900 balles, un 12 mètres carrés, surtout ne me remercie pas. Je te dirai jamais je t'aime. La tendresse j'ai jamais connue. De toute façon je sais pas faire. Désolé pour toi c'est foutu. Je te dirai jamais je t'aime. La tendresse j'ai jamais connue. De toute façon je sais pas faire. Désolé pour toi c'est foutu.
Bonjour Gaëlle.
Bonjour Gaëlle.
Je ne m'en lasse pas. Cette semaine, c'est d'art contemporain que tu nous parles, mais pas seulement, avec les expositions du MAC qui a réouvert au public la première semaine d'octobre après quelques mois de fermeture pour travaux, n'est-ce pas ?
Exactement, les travaux au MAC Lyon sont terminés. Deux expositions, L'homme aux mille natures et Comme un parfum d'aventure, inaugurent la réouverture. Avant de les détailler, à noter dès l'entrée du musée un nouveau format intitulé Crossover. ils mettent en avant le dialogue entre deux artistes, l'un faisant partie du fonds permanent, l'autre étant un artiste émergent. Le crossover inaugural met en avant l'installation Prométhée délivré de l'Autrichien Thomas Furstein, œuvre achetée par le MAC lors de la dernière Biennale d'Art de Lyon en 2019. Une sculpture représentant Prométhée enchaîné se décompose lentement, rongée par des bactéries. En même temps, un dispositif nourrit progressivement des cellules de foie artificielles. Cette création matérialise l'irrévocable supplice du titan Prométhée. Pour avoir volé le feu afin de le transmettre aux humains, Jupiter l'a condamné à avoir le foie dévoré chaque jour par un aigle, son foie renaissant chaque nuit. En contrepoint, Jimmy Richer a réalisé une peinture murale de grand format. Intéressé par les origines des mythes, il a repris le feu via une comète très graphique associée à la figure de Prométhée. La première exposition, L'homme aux mille natures, propose plus de 400 dessins, des sculptures et des peintures grand format d'Eddie Dubien. J'avais récemment évoqué cet artiste pour une exposition organisée par le MAC chez Manifesta. Au MAC, c'est la première exposition monographique d'Eddie Dubien. L'éloquence du titre « L'homme aux mille natures » incarne parfaitement les convictions de l'artiste, soit l'écologie, la sauvegarde des animaux et la question du genre. Une sculpture d'un chevreuil à terre dénonce les violences faites aux animaux. Intitulée « Paradis perdu », l'œuvre fait un clin d'œil à une chanson de Christophe. Mathieu Lelièvre, commissaire de l'exposition, insiste. Le parcours artistique d'Eddie Dubien est un pacte avec la nature, un hymne à la nature et à soi-même. Regardez d'ailleurs bien mon masque à l'imprimé créé par Eddie Dubien, imprimé avec un bestiaire que vous retrouvez en papier peint sur les murs de l'exposition. L'artiste dénonce aussi les violences faites aux enfants. Cas du dessin où un enfant lance, comme un ballon, un crâne en l'air. Eddie Dubien fait jongler les vanités. Le grand et énigmatique Tipi Brûlé est aussi, pour l'artiste, une métaphore de la maltraitance faite aux enfants. Sauvegarder la nature, c'est aussi sauvegarder sa propre nature. La construction de l'identité et la liberté d'être soi-même, voilà le combat. La violence normalisante est puissamment dénoncée sur un dos des nombreux bustes de mannequins exposés. « Ma nature se crie » est le message gravé dans le dos. La deuxième exposition, comme un parfum d'aventure, offre un panorama de l'expression du mouvement. Isabelle Bertolotti, directrice du MAC, souligne la volonté du musée de faire travailler les artistes contemporains sur la thématique du déplacement entre volonté et contrainte après l'expérience collective du confinement. La scénographie propose ainsi en vis-à-vis des œuvres contemporaines et des œuvres plus anciennes de la collection du Musée des Beaux-Arts, collaboration inscrite dans la gouvernance Pôle Musée d'Art de Lyon. L'exposition étant collective, impossible de citer tous les artistes, mais voilà quelques insights. Laura Ben Aiba et Rémi de Chiara proposent un nouvel art de la cartographie, un enregistrement du déplacement de leur corps dans des lieux connus ou encore non répertoriés. Leurs œuvres soulèvent la notion de l'appréhension de l'espace avec la technologie du GPS. Ils dessinent avec leurs pieds. Ces dessins du trajet dans les rayons de 1 puis 100 km qui nous ont tous contraints dans notre perception du territoire lors du confinement ne sont pas sans rappeler les anciennes cartographies de MapMonde où chaque hémisphère était représenté dans un grand cercle. Le corps en mouvement et tracé via le GPS offre des formes nouvelles de représentation, art de l'empreinte, de la déambulation. L'idée du paysage se renouvelle au fur et à mesure que notre monde rétrécit définitivement. L'imaginaire de chaque spectateur verra dans les lignes des déplacements du duo d'artistes la forme qu'il souhaite. En effet, pendant le confinement, on marchait juste pour marcher. Marche pour elle-même, simplement. On ne se rendait précisément pas quelque part, pas de cap géographique, mais juste la volonté d'avoir son corps en mouvement. C'est ce mouvement que le duo d'artistes met en avant via un journal intime cartographié du déplacement. Coup de cœur, énorme coup de cœur pour l'espace de Jean Julien, graphiste, illustrateur et je dirais même poète, qui réussit la gageure de nous faire voyager sans altérer notre empreinte carbone. Vous connaissez forcément Jean Julien. Il est l'auteur, suite aux attentats du 13 novembre 2015 en France, du dessin Peace for Paris, où le symbole Peace and Love se mêlait avec la silhouette de la Tour Eiffel. Entre nous, dessin que certains avaient initialement crédité Banksy. Or, c'est bien Jean-Julien. Pour Comme un parfum d'aventure, Jean-Julien expose croquis et réflexions graphiques sur le tourisme. Véritable satire sociale sur la prise de conscience d'enjeux, comme par exemple la réduction de notre impact environnemental. Ces phrases et illustrations épinglent l'hypertourisme afin de prôner une nouvelle philosophie du voyage, soit le voyage durable, plus vert, plus lent, plus propre, ce fameux « slow travel » en français. Mais attention, l'artiste insiste, il faut voir dans sa démarche un journalisme humoristique, comme le faisait Sempé, par exemple avec l'exode rural. Humour plus que confrontation. L'artiste parle de critiques affectueuses, rejoignant celle du stand-up et de la comédie américaine dont Jean-Julien dit s'inspirer. Le but est d'essayer de comprendre, même démarche que celle des comédiens qui, analysant la société, se questionnent « Est-ce que je suis le seul à penser ça ?» Dans la section « Parcourir le monde », la marche est abordée avec les pieds sculptés en verre soufflé de Christine Croza. À chaque fois, c'est son pied. L'artiste n'imite pas, elle tente de donner forme à un souvenir. Christine Croza, d'ailleurs pétillante médiatrice de son œuvre, expose aussi des illustrations qu'elle qualifie de poétiques, déplacement à elle toute seule, car ses illustrations mixent des panneaux signalétiques du monde entier. Enfin, allez dans l'agence de voyage reconstituée de Guillaume Bigel, elle est déserte. Archéologie de notre temps, cette installation hyper réaliste est un ironique fossile de la vie d'avant. Ces expositions sont à voir jusqu'au 3 janvier 2021. Plus d'informations sur mac-lyon.com.
Merci beaucoup Gaëlle, ça donne envie d'aller découvrir ces expositions, n'est-ce pas Guillaume ?
Ah mais parfaitement, j'en viens et il se trouve que toutes les artistes que tu as citées parmi toutes les œuvres qu'il y a, et bien en fait, c'est les seules que j'ai photographiées. Donc finalement, l'un dans l'autre, finalement, nous sommes un petit
beaucoup.
Peu sur la même longueur d'onde.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci, on se retrouve juste après. On termine cette semaine avec nos Gédéons de la semaine. Est-ce que tu veux commencer, Guillaume ?
Avec plaisir. Alors, comme nous avons écouté Seb va participer donc à ce festival à Villefranche-sur-Saône, le festival Nouvelle Voix, qui va avoir lieu du 16 novembre au 21 novembre. Et il y a pas mal d'artistes que l'on connaît qui sont venus ici déjà au micro, dont Seb ce soir, enfin aujourd'hui, donc Caval qui a joué ici chez nous. Voilà, on se souvient du piano du Théâtre Comédie-Odéon, un petit peu désaccordé, mais très, très beau. Et puis, voilà, ce qui est vraiment formidable avec le festival Nouvelle Voix, c'est que certes, le Covid fait qu'il n'y a pas de gros artistes, de gros têtes d'affiche, mais tous les artistes, c'est vraiment des artistes en devenir, et c'est ceux qui vont faire vraiment l'actualité de demain. Et notamment, on a insisté sur Seb, on insiste sur Caval, qui sont de la région, mais on insiste aussi sur Clara Isée, qui a joué ici au Théâtre Comédie-Odéon dans un French Connection, et c'était extraordinaire. Elle a une voix incroyable, c'est une sorte de Barbara, mais sous acide. Voilà, donc c'est un petit peu particulier. Et elle jouera avec une autre artiste, moi que j'aime beaucoup, qui fait une folk en français, qui s'appelle Loni. Avant, elle avait un autre nom, elle avait un nom à rallonge, mais voilà, maintenant c'est Loni, et c'est vraiment étonnant. Et puis bien sûr, il va y avoir un autre de la région qui s'appelle Fiscara, qui fait une sorte de rap un peu romantique, voilà. Et puis, bien sûr, une grande star de demain, PR2B, qui va vraiment éclater, qui va être une future, je ne sais pas moi, pas Christian The Queens, c'est pas dans la même tonalité, mais je pense qu'elle a le potentiel pour vraiment, vraiment exploser. Donc vraiment, le festival Nouvelle Voix, c'est vraiment, comme son nom l'indique, des nouveaux artistes, mais qui vraiment vont éclater. De toute façon, Eddie Lepretou va jouer là-bas, Faux va jouer là-bas, mais quand ces gens n'étaient pas connus. Donc franchement, c'est un tremplin formidable. Et on souhaite à Seb, bien sûr, tout le succès après ce festival. Voilà, donc le festival Nouvelle Voix au Théâtre de Villefranche. Pas de concert au Théâtre de Villefranche, mais dans toute l'agglomération, à Glaizé et dans d'autres endroits autour de Villefranche. Voilà.
Gaëlle, on t'écoute pour ton Gédéon de la semaine, alors, ton incontournable.
Mon Gédéon de la semaine est une BD documentaire, le biopic d'une diva décédée il y a 50 ans, première grande star féminine du rock, icône blanche à la voix noire, surnommée Pearl, soit Perle, j'ai nommé
Janis Joplin.
Love Me Please, titre du roman graphique, est signé Nicolas Firet au scénario et Christopher Longer à l'illustration. La BD vient de sortir aux éditions Marabulle, maison d'édition créée en 2009 au sein de Marabout. Depuis 2016, Marabulle édite surtout des biopics féminins. Janis Joplin était une frondeuse servie par une puissance vocale sans pareil, une magistrale voire rauque, et vivant avec une liberté totale ces années de la Beat Generation, génération du tempo. En succombant en 1970 d'une surdose d'héroïne, elle fait partie du nommé Forever 27 Club, des stars décédées à l'âge de 27 ans, comme Brian Jones, fondateur des Rolling Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain et plus récemment en 2011, Amy Winehouse. La BD est intitulée Love Me Please car Janis Joplin, d'abord perçue comme une incontrôlable rebelle, puis encensée en 1967 au Festival de Monterrey, ce fameux festival qui lance le Summer of Love, voulait être aimée, tout simplement. Ressentir les choses et y aller à fond était son credo. Aussi sensible qu'extravertie, c'est en effet à fond qu'elle a mené sa vie. Or, il en fallait du courage dans les années 50 pour les femmes portées par un désir d'émancipation et pour se forger une place dans l'univers sexiste du rock. Admiratrice de Bessie Smith et de Billie Holiday, Janis Joplin a été façonnée par le blues, musique que les Blancs n'écoutaient en principe pas, la ségrégation étant forte. La BD Love Me Please retrace d'une manière chronologique et fluide cette carrière éclair hein, de 4 années seulement avec 4 albums. Le dernier album, Pearl, surnom donc de Janis Joplin, est sorti à titre posthume un mois et demi après sa mort.
Merci beaucoup Gaëlle. On va rester dans cet univers graphique avec, pour ma part, un Gédéon cinématographique. Il y a quelques jours, j'ai vu un film qui s'appelle Joseph, un film signé Aurel, A-U-R-E-L, qui est un dessinateur de bande dessinée, enfin plus précisément dessinateur de presse pour être plus exact. Donc Aurel a été sélectionné de manière officielle pour Cannes 2020. Cannes qui n'a pas eu lieu évidemment et le film est sur les écrans actuellement. Il est sorti la semaine dernière. Joseph, c'est l'histoire qui se produit, donc qui se passe en février 1939, submergé par le flot des républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par des barbelés vont se lier d'amitié, l'un est gendarme, l'autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Joseph Bartoli, lui-même dessinateur de presse et combattant antifranquiste et artiste d'exception, est décrit dans ce film avec une justesse, avec une sensibilité absolument extraordinaire. Donc ce film, je vous l'ai dit, est signé Aurel, du dessinateur de presse et auteur de BD et réalisateur. C'est son premier long métrage d'animation. Courez voir ce film, c'est splendide. Metteur en scène est parti des dessins de Joseph Bartoli pour travailler sur ses carnets, puisqu'il travaillait à l'époque où il était enfermé dans les camps, il travaillait sur des cahiers avec des trames d'écoliers. Et on retrouve en fait cette trame et ce travail graphique dans le film. Bref, moi je vous invite à voir ce film. Il y a déjà plus de 100 000 spectateurs qui ont vu ce film, ce qui est très rare puisque dans les films d'animation, on peut dire que quand il a fait déjà 30 000, un film d'animation, c'est déjà pas mal en France. Là, on est sur le 100 millième spectateur qui a vu Joseph. Donc les voix des personnages sont signées François Morel, totalement à contre-emploi, hein. Il fait un salopard dans le film absolument affreux. Et Bruno Solo est bien sûr celui qui incarne le personnage de ce Barcelonais et artiste, c'est Sergi Lopez, je vais y arriver, qui est capable de parler à la fois, bien sûr, en catalan et en français. Donc, allez le voir, c'est très, très beau. C'est un film sur l'art, mais un film surtout sur un pan de notre histoire qui est bien peu glorieux, malheureusement, hein, dans ces périodes très sombres de l'après-franquisme et de la Seconde Guerre mondiale. Merci à tous, on termine là-dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.